ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie.
Pour écouter Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini et Tutti Quanti, c'est Tutti Quanti. Pour écouter des adagios, des allegro, des moderato et tutti quanti, c'est Tutti Quanti, votre magazine consacré à la musique classique de Radio MDM, à la technique, le fidèle Arnaud. Et cette émission est comme d'habitude préparée par Alain Bonte. Bon, aujourd'hui on se consacre à une pianiste exceptionnelle, tellement exceptionnelle d'ailleurs que la prochaine émission lui sera aussi consacrée. Je n'ai pas réussi à ne garder qu'une heure à l'immense Martha Argerich. Martha Argerich, pianiste née le 5 juin 1941 à Buenos Aires. C'est l'archétype de l'enfant prodige. Elle avait un frère aîné qui jouait du piano et à l'âge de 2 ans et demi, complètement d'oreille, elle reproduisait ce que son frère apprenait laborieusement. Elle fera ses premiers concerts très très tôt, et par exemple c'est à l'âge de 11 ans où, dans le grand théâtre de Buenos Aires, elle jouera par exemple le concerto de Schumann, ce qui n'est quand même pas tout à fait une pièce pour enfants. Le gouvernement argentin va repérer les talents de Martha Argerich et va offrir à la famille une bourse pour qu'elle puisse venir se perfectionner en Europe. Elle arrive en 55, elle va travailler avec plein de grands pianistes. Elle dira elle-même que celui qui l'a le plus influencé est Friedrich Gulda. Et en 57, alors qu'elle a 16 ans, elle va se présenter à des grands concours internationaux. Et en 2 semaines seulement, elle va remporter successivement le concours de Genève et le concours Busoni à Bolzano en Italie. 1960, elle a 19 ans, c'est un de ses premiers disques qui paraît, un disque récital, un disque, Martha Argerich aime beaucoup les disques où elle peut mélanger différents compositeurs, où elle peut montrer plein d'aspects différents de la musique, et ce disque fait évidemment sensation. Je propose d'écouter un extrait de ce premier disque, c'est la Barcarolle de Chopin.
Thank you.
C'était donc la barcarolle de Chopin. Chopin va évidemment tenir une place importante dans la carrière de Martha Argerich. Bon, c'est souvent le cas pour les pianistes. La place de Chopin y est souvent considérable. Mais pour elle, c'est particulièrement vrai puisqu'en 1965, elle va se présenter au concours international Frédéric Chopin, le concours de Varsovie, et elle va y remporter 3 prix. Le premier prix, le prix du public et celui de la meilleure interprétation des mazurkas. On va entendre tout de suite un exemple de ces mazurkas dans un enregistrement qui date d'ailleurs de cette année-là, 1965. C'est le mazurka numéro 36, l'opus 59, numéro 1. Dont nous allons parler aujourd'hui est sans doute l'anniversaire dont on parlera le plus dans le milieu de la musique classique cette année. Le 7 mars 1875, naissait à Cibourg, dans le Pays Basque, pas très loin de chez nous, naissait Maurice Ravel. Alors, puisque l'émission est consacrée à Martha Argerich, on va évidemment conjuguer un petit peu les deux. Je propose d'écouter le mouvement lent, le deuxième mouvement du concerto en sol. Martha Argerich est accompagnée par l'Orchestre Philharmonique de Berlin que dirige Claudio Abbado. C'est un enregistrement de 1967. Thank you. avec Chopin et Ravel, un autre compositeur va tenir une place essentielle dans la carrière de Martha Argerich, c'est Franz Liszt. Et je voudrais consacrer un petit moment pour évoquer son enregistrement de la sonate de Franz Liszt, la sonate en si mineur. Pourquoi y consacrer un moment ? Parce que cette pièce est, à mon avis, l'une des plus importantes de l'histoire de la musique. S'il fallait retenir, on va dire 10 pièces dans l'histoire de la musique occidentale, je pense que cette sonate de Liszt serait au sommet de ces 10 pièces. Pourquoi cette sonate est importante ? Parce que c'est une sorte de réussite exceptionnelle de composition. Liszt réunit différents challenges. Par exemple, il réunit en un seul mouvement les 4 mouvements traditionnels de la sonate. Vous savez qu'une sonate, en général, c'est en 4 mouvements, un mouvement rapide, un mouvement lent, un mouvement qui, au moment de la sonate classique, s'appelait menuet, au moment de la sonate romantique, va s'appeler scherzo, et puis un final qui devient un peu plus rapide. Franz Liszt va faire tout ça en un seul mouvement où tout s'enchaîne, où on va avoir, avec des transitions et des codas, etc., mais on va avoir cette architecture-là. Là où il va faire un petit peu plus fort, c'est que, en général, dans une sonate, le premier mouvement répond à une forme qu'on appelle la forme sonate, qui est une forme en 3 mouvements. Il y a une première partie où globalement le compositeur vous propose les thèmes, en général deux thèmes principaux qu'il va utiliser dans son premier mouvement de sonate. Puis il y a une deuxième partie qui s'appelle le développement, où le compositeur va travailler sur ces thèmes, les mélanger, les opposer, les faire passer par plein de tonalités différentes. Et puis une troisième partie qu'on appelle la réexposition, où le compositeur va reprendre les thèmes initiaux et les redonner tous les deux dans la même tonalité pour donner un sentiment d'unité. Donc ça concerne souvent le premier mouvement d'une sonate. Et Liszt va réussir, tout en unifiant les 4 mouvements, à greffer en quelque sorte cette forme sonate sur les 4 mouvements. Donc on a une sorte de double organisation qui est assez complexe quand on la regarde dans le détail. Pas si facile que ça à entendre. En revanche, l'un des procédés qu'il utilise pour faire ça est assez facile à entendre. Ce procédé, c'est ce qu'on appelle la transformation thématique. Un bon compositeur, n'est pas celui qui a beaucoup d'idées. C'est celui qui, au contraire, avec très peu d'idées, arrive à faire énormément de choses. Et donc, avec un simple mouvement mélodique, un simple petit thème, il va réussir à le transformer successivement pour créer des émotions à chaque fois différentes. Je vais vous en donner quelques exemples qui, j'espère, seront probants. Par exemple, dans cette sonate de Liszt, il y a un petit motif qui est donné presque tout de suite, que je vous propose d'entendre. On en entend tout de suite une première transformation. Puis une seconde. Puis une troisième transformation. Donc en changeant le caractère, en changeant le tempo, on arrive à modifier un petit peu les choses et pourtant le motif de base reste bien le même. Et c'est ce motif-là qui, par exemple, dans cette sonate de Liszt, va servir comme sujet, comme thème de la fugue qui est à peu près au centre de la pièce. Je vous propose donc d'écouter la fugue extraite de la sonate en si mineur de Liszt. Évidemment, c'est Martha Argerich au piano. Thank you. disais tout à l'heure, dans une forme sonate, en général, il n'y a pas deux thèmes, il y en a deux. Il y a un autre thème, alors en fait, on l'a déjà entendu parce que Liszt s'amuse beaucoup à le superposer au premier, mais je vous propose d'écouter tout seul cet autre thème. Et écoutons maintenant une transformation radicale, parce que le tempo va être très 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 allongé, et ce thème qui était un petit peu sarcastique va devenir au contraire très lyrique. Et c'est ce thème lyrique qui va servir comme motif principal dans le cantando espressivo qui va précéder l'extrême fin de la pièce. On va donc écouter cette fois-ci la fin de la sonate de Liszt, trois mini-mouvements en quelque sorte, en tout cas les indications que donne Liszt sont successivement cantando espressivo, donc en chantant de façon expressive, stretta, donc en resserrant, et andante sostenuto. Pour cette fin de cette sonate de Liszt, c'est toujours évidemment Martha Argerich. Alors, on a cité Chopin, on a cité Ravel, on a cité Liszt, des grands noms du répertoire pour piano. Bien évidemment, Martha Argerich y est beaucoup illustrée. Martha Argerich a aussi utilisé à la fois son talent et sa renommée pour jouer des œuvres beaucoup moins connues et pour faire découvrir des compositeurs parfois peu renommés ou peu connus dans le domaine de la musique classique. C'est le cas, par exemple, de Luis Enriquez Bacalov. Bacalov, si je vous le dis comme ça, vous allez me dire « voilà un compositeur russe ». Eh bien, pas du tout. C'est un compositeur italo-argentin. Et c'est sans doute peut-être cette origine argentine qui a attiré, dans un premier temps, Martha Argerich. Et Bacalov est né en 33. Et c'est quelqu'un qui s'est beaucoup illustré dans la musique de film. Il va s'installer en Italie, d'ailleurs, finalement, assez jeune. Il arrive en Italie quand il a une trentaine d'années. Il y restera jusqu'à son décès. Un compositeur extrêmement prolifique, beaucoup, beaucoup de western spaghetti. Mais pas seulement. Il a composé, par exemple, la musique du facteur Il Postino, qui lui a valu quand même d'obtenir un Oscar pour cette musique de film. Il a mis en musique aussi des films de Fellini, comme La Cité des Femmes, alors qu'il n'est pas très très connu pour ça. Et puis, il a composé de la musique, j'allais dire plus savante, en tout cas moins destinée au cinéma, comme dans cette pièce qui s'appelle Portegna, qui est une pièce pour piano et orchestre. On va écouter le début, enfin les premiers mouvements de Portegna. Ces mouvements sont appelés par Bacalov lui-même de la façon suivante, Portegna, Nocturnal, Cadenza et Portegna. C'est évidemment Martha Argerich au piano.
Trois petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs lèvent un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir.
Une chanson pour terminer cette émission. Alors, on est à la limite entre la chanson populaire et la musique classique. S'il y a bien quelqu'un qui s'est amusé à jouer sur cette frange un petit peu étroite, c'est le compositeur Kurt Weill, compositeur fétiche de Bertolt Brecht. Weill fait partie de ces compositeurs donc qui, sans renier du tout la modernité, s'intéresse beaucoup à la musique populaire et essaye de trouver ce lien entre les deux. On en a un bel exemple avec cette chanson assez connue qui s'appelle Youkali. Et pour illustrer ce lien entre la musique populaire et la musique savante, la version que j'ai choisie est celle qui est chantée par la chanteuse Diane Dufresne. Donc on est clairement dans le domaine de la musique populaire. Mais Diane Dufresne accompagnée par l'Orchestre de Montréal que dirige Yannick Nozet-Seguin. «
c'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errant au gré de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire le tour. Youkali, c'est le pays de nos désirs. C'est le plaisir. Youkali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit, comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. C'est Youkali. Youkali, c'est le respect de tous les vœux échangés. Attendons tous pour demain. Youkali, c'est le pays de nos désirs. Youkali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Mais c'est un rêve, une folie. Il n'y a pas de Youkali, mais c'est un rêve, une folie. Il n'y a pas de Youkali, et la vie nous entraîne, la santé quotidienne et la pauvre âme humaine, cherchant partout l'oubli, a pour quitter la terre su trouver le mystère où nos rêves se terrent en quelques Youkali. Youkali, c'est le pays de Youkali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Youkali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit, comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. Mais c'est un rêve.
C'est avec Youkali de Kurt Weill, chanté par Diane Dufresne, que se termine ce numéro de Tutti Quanti consacré à Martha Argerich. Je vous le disais, l'œuvre d'Argerich est tellement prolifique et tellement dense qu'il était difficile de la circonscrire en une heure. On retrouvera donc, si vous le voulez bien, Martha Argerich dans 15 jours. Et d'ici là, portez-vous bien.
Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie. Et sur les notes, on oubliera le monde qui n'en finit pas de tout.